Et c'est le journal de Ludovic Piétenu. Bonjour Ludovic.
Et hâte d'écouter ça. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. En France, la grogne sociale contre la loi travail et des contestations qui montent de toutes parts, au bord de l'insurrection, même dans un coin de France, à Mayotte, 101e département, à 8000 km de Paris. La ministre de l'Outre-mer répond dans cette édition et appelle à la patience. La patience et l'optimisme, deux éléments que l'on retrouve dans la parole présidentielle. Un chef de l'État en opération séduction ce soir à la télévision sur France 2. Ce sera dans quelques instants notre choix, celui de la rédaction. En Syrie, Bachar al-Assad n'est pas prêt à lâcher le pouvoir. 5 ans de guerre et pour la seconde fois depuis le début du conflit, il convoquait hier son peuple à des élections législatives. Ce sera ce soir, jeudi 45 mars, la 14e nuit debout, un peu partout sur les places de France. Hier, le mouvement s'est élargi à quelques villes de banlieue, mais encore assez timidement. 2 à 300 personnes, par exemple, à Saint-Denis, aux portes de Paris. À 8h, dans le journal d'Amélie Perrier, nous irons en banlieue lyonnaise à Vaux-en-Velin, où le gouvernement présentait hier un nouveau plan pour les banlieues, justement, et la jeunesse intitulée « Égalité et citoyenneté ». La contestation est là-bas beaucoup plus forte, à 8000 km de la métropole, à Mayotte. On en parlait ici même hier matin. Dans ce département français, certes bien loin de la métropole, on demande l'égalité réelle. Et depuis 15 jours, c'est la grève générale. La ministre de l'Outre-mer était par conséquent l'invitée de France Culture hier soir chez Stanislas Vazak, le journal de 22h, la ministre Georges Pollangevin.
C'est vrai que lorsque la démarche a été faite sur la départementalisation de Mayotte, et je rappelle que tous les gouvernements successifs ont poursuivi la même démarche, eh bien, peut-être que quand on est passé en département en 2011, on n'avait pas prévu tous les moyens, et notamment les moyens financiers, pour effectuer la remise à niveau de Mayotte par rapport aux autres départements d'outre-mer et même par rapport à la métropole. Il faut rappeler que Mayotte est française depuis moins longtemps que d'autres département, qu'elle est restée longtemps sur un statut quasiment de tome et que les rattrapages se font progressivement. Par conséquent, si vous voulez, on ne peut pas faire évoluer une société à marche forcée, comme on essaye de le faire, sans qu'il y ait un certain nombre de dysfonctionnements. Mais en même temps, le souhait des Mahorais d'arriver à l'égalité réelle me semble en soi respectable. La question, c'est les délais qui on doit observer. On est obligé de pouvoir monter un certain nombre de structures à Mayotte pour pouvoir trouver, utiliser même les financements que nous avons mis en place. On est obligé de s'appuyer sur des rythmes, sur une ingénierie, parce que même si on met les crédits, pour l'instant, tout le monde n'est pas en mesure d'absorber ces crédits. Les entreprises mahoraises ne sont pas en mesure d'ores et déjà aujourd'hui d'appliquer exactement dans les mêmes termes le même droit du travail que de grandes entreprises en métropole.
La ministre de l'Outre-mer, Georges Pollangevin, priorité immédiate du gouvernement, ramener l'ordre sur l'île de Mayotte. Des renforts de policiers et de gendarmes vont être envoyés sur place. La France, bonnet d'âne en matière d'égalité à l'école. Selon un rapport de l'UNICEF publié aujourd'hui, les élèves défavorisés accusent un retard scolaire très préoccupant. Les inégalités se renforcent dans ce rapport. La France se classe au 28e rang sur 37 pays de l'OCDE en termes d'écart de performance en lecture, en mathématiques et en sciences en fonction du milieu social. Un hommage national présidé par François Hollande sera rendu la semaine prochaine aux 3 soldats français décédés avant-hier au Mali. Ils ont été tués dans le cadre de l'opération antiterroriste Barkhane. Leur véhicule a sauté sur une mine. Alors que les négociations sur l'avenir politique de la Syrie ont repris hier à Genève, la Syrie organisait au même moment des élections législatives. Preuve de la détermination du président Bachar al-Assad et de son parti Baas à rester au pouvoir. À Damas, notre envoyé spécial Valérie Crova a suivi ce scrutin.
Bachar el-Assad et sa femme Asma, tous les deux souriants, mettant leur bulletin dans l'urne. L'image n'est pas innocente et peut apparaître comme un nouveau défi à ceux qui pensent que le président syrien n'a plus aucune légitimité. Le raïs n'en a cure et ces élections législatives montrent une fois encore que le pouvoir syrien reste sourd aux condamnations internationales et qu'il entend maîtriser son calendrier électoral. Tandis qu'à Genève, les délégations du régime et de l'opposition doivent de nouveau discuter de la la feuille de route fixée par la résolution 2254, laquelle prévoit l'organisation d'élections présidentielles et législatives dans une période de 18 mois, Damas impose son propre tempo, jusqu'à retarder l'arrivée de sa délégation à Genève en raison du scrutin organisé hier en Syrie. L'enjeu de ces élections législatives est de voir si le parti Bas conservera sa place dominante au sein de l'Assemblée du peuple ou si les candidats indépendants et le parti national-socialiste syrien arriveront à lui prendre des sièges, des hommes et des femmes qui remettent en cause la prépondérance du Bas et qui pensent que l'on peut réformer le système de l'intérieur.
Valérie Crova à Damas, 2 ans jour pour jour après le rapt de 276 jeunes filles au Nigeria qui avaient ému le monde entier, le groupe Boko Haram envoie une preuve de vie pour au moins 15 d'entre elles. Elles apparaissent dans une vidéo recouverte d'un hijab diffusée sur la chaîne américaine CNN. Elles déclinent leur identité, elles précisent la date de l'enregistrement, 25 décembre 2015. Aujourd'hui, à l'occasion de ce deuxième triste anniversaire, les familles plongées dans l'angoisse et la tristesse organisent des prières et des manifestations à travers tout le Nigeria.